Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah oui, c'est la dégringolade comparée à ce que vous connaissez d'habitude.
Vous serez ravi d'apprendre que j'ai perdu jusqu'à mon dernier sou.
Son mari était un sacré embobineur.
Et d'après ce qu'on me dit, elle est très jolie.
Divinatrice et divine à regarder.
Sidonie Bonnec.
Je perçois une impression mentale.
Êtes-vous originaire d'Asie, d'Extrême-Orient?
Thomas Hugues.
J'ai toujours été persuadé qu'il n'y avait rien du tout après la tragique et morne réalité de la vie, alors que vous êtes la preuve qu'il y a autre chose. De mystérieux, de magique.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Il fête aujourd'hui ses 80 ans, 56 ans de carrière, 46 films au compteur comme réalisateur, mais qui est Woody Allen? Quel est le secret de sa réussite, de sa longévité? On en parle ce soir avec notre invité, le journaliste à Studio et Ciné Live, Thierry Chaise. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Vous allez bien? Ravi de vous retrouver au micro.
Moi aussi.
De la curiosité. Alors, 46 longs métrages comme réalisateur, 3 Oscars. Bon, c'est une carrière exceptionnelle. C'est quoi son secret? Le talent? L'inconscience?
Le talent.
L'imagination?
L'inconscience, l'autodérision et quelqu'un qui a su se servir de ses modèles, qui étaient Groucho Marx, Buster Keaton et Charlie Chaplin, pour faire sa propre musique et aujourd'hui inspirer tant d'autres.
Il y a très peu de réalisateurs qui réalisent autant de films. On sait combien c'est dur de monter un film. Pourquoi il en tourne autant? Il les finance lui-même?
Alors, il a du mal à les financer. On en parlera tout à l'heure. C'est pour ça qu'il vient beaucoup en Europe. C'est quelqu'un qui a une gymnastique, qui a une sorte de vie très réglée. Il explique, de toute façon, au moment déjà où sort un film, il est quasiment en train d'en tourner un autre. C'est sa vie qui est réglée comme ça. Sa vie, c'est le cinéma. Il a découvert le cinéma à 3 ans. Il est allé voir Blanche-Neige avec sa maman. Il avait dit, voilà, j'ai trouvé ma deuxième maison, et sa deuxième maison est toujours sa deuxième maison aujourd'hui.
Et c'est son vrai nom, Woody Allen?
Ça n'est pas son vrai nom. Alors, il a pris un pseudo, parce que, à 15-16 ans, 16-17 ans, il a commencé par écrire des gags pour des journaux new-yorkais. Et en fait, on a dit, attention, si on sait qui tu es, avec ton vrai nom, prends plutôt un pseudo, parce que sinon, on va se dire, un gamin de 16 ans qui écrit. Mmh. Et quel pseudo il prend? Eh bien, il prend un pseudo en rapport avec un trompettiste de jazz qui s'appelait Woody Herman, que moi je ne connaissais pas à part parce que Woody Allen avait cette passion là et à partir de là il va s'appeler Woody en hommage à ce clarinettiste qui est mort en 87. Donc déjà jazz, cinéma, tout était mêlé dès le plus jeune âge. Il avait que 16 ans à ce moment-là.
Ça, c'est impressionnant. Et son vrai nom, c'est Alan Stewart Königsberg.
Mmh. Alors, c'est intéressant, vraiment. C'est un personnage fascinant. Au-delà du côté un peu maladroit, maigrichon, les petites lunettes, c'est un personnage. C'est un homme d'habitude. Il a un emploi du temps extrêmement réglé. Ça ressemble à quoi une journée de Woody Allen?
Une journée de Woody Allen, c'est une journée beaucoup d'écriture et de jazz. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, parfois on dit, ah ben, lorsque les gens sont âgés, ils ont une vie réglée. Lui, il a toujours eu cette vie-là.
Il a toujours été âgé.
Il a toujours été âgé. Mais d'ailleurs, quand on regarde sa tête, c'est l'avantage des gens qui vieillissent pas finalement.
C'est
puisque et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a cette espèce de gymnastique. Pour lui, depuis qu'il a... faut pas oublier que depuis l'âge de 15 ans, il écrit. Il a écrit pour d'autres ou il écrit pour lui-même. Et que je pense que si aujourd'hui on lui disait tu n'écris plus ou tu ne réalises plus, la vie n'aurait plus aucun sens. Alors après, il a ses plaisirs qui est de venir à Paris notamment, pas que pour tourner et tout ça. Mais l'essentiel, c'est quand même de revenir. Et donc pour lui, les journées, c'est écriture, je dirais, c'est écriture et jazz. Et à un point tel que c'est pas juste qu'il écrit, c'est qu'il écrit des choses magnifiques.
Et il écrit pas sur n'importe quoi. Il écrit pas sur un ordinateur.
Ah ben, il écrit sur une machine à écrire.
Mais c'est incroyable, toujours la même.
Toujours la même.
Non, encore,
elle a dû évoluer. Elle a dû évoluer depuis, mais c'est parce que ça va avec le personnage aussi. Et puis je l'imagine que même si il devait utiliser un ordinateur, il ne peut pas. Il a Woody Allen, c'est à la fois un grand cinéaste, mais c'est aussi une image. Et à partir de là, si on enlève la machine à écrire à Woody Allen, je pense qu'on enlève une partie de son imagination et qui serait face à un ordinateur. Et de son écriture. C'est comme ça depuis toujours. C'est un homme d'habitude. On n'enlève pas ses habitudes. Et pourtant, c'est un cinéaste qui ne se répète pas, même s'il est,
il
est
toujours. Oui, on voit pas toujours le même film.
Exactement. Ouais. Alors que c'est quand même, les obsessions sont toujours là. Le sexe et la mort, hein, les deux thématiques principales. À partir de là, à raison presque d'un film par an, il parvient à se renouveler. Donc merci à cette machine à écrire.
Et ce look? Est-ce qu'il a toujours ressemblé à Woody Allen, si j'ose dire? C'est absurde cette question, mais vous voyez, ce côté, je sais pas, lunettes noires, cet air un peu chétif, un peu malade, un peu gauche.
Eh bien, c'est un peu ça, parce que cet air chétif et gauche, il avait à l'école, lui était un peu le souffre-douleur de tout le monde, sauf quand il faisait les tours de magie. Il était apprécié pour ses tours de magie, mais sinon, il était plutôt au fond de la classe et tout ça. Et lorsqu'il est monté sur scène faire du stand-up, parce qu'après l'écriture de gags, il a fait ça, son manager lui a tout de suite dit, cultive tes défauts, sois ce personnage, mais sois-le à fond. Et donc, à la fois, joue là-dessus dans tes textes, mais apparaît vraiment avec les lunettes d'un télo, les lunettes à Woody Allen. Woody Allen est devenu un personnage aujourd'hui, quand on voit des héros de cinéma, même qui ne sont pas dans ses films, on dit « Ah ben c'est un héros alénien ». Mais le Rélénien, c'est l'intellectuel juif new-yorkais avec des lunettes, pas forcément bien coiffé, et qui se moque beaucoup de lui-même.
Et Woody Allen, qui fait du stand-up, c'est quoi ? Il reçoit des tomates ou au contraire, il est acclamé, il a du succès ?
Il est acclamé. C'est un succès absolument incroyable. Il monte sur scène dans les années 60 et pendant 6-7 ans, il va se produire beaucoup, beaucoup à New York. C'est là, on en parlera tout à l'heure, où il sera repéré pour faire du cinéma. Mais c'est quelqu'un qui triomphe parce que déjà, il y a cette plume, il y a cet aspect. Un, il se moque admirablement de lui-même, il a le sens des formules et évidemment que ça fait un tabac totalement à Manhattan et sa carrière de cinéaste naîtra véritablement sur scène. C'est là.
Cette inspiration, cet humour, où est-ce qu'il l'épuise ? Dans son environnement, il vit à New York, c'est ça ?
Il vit à New York, il puise beaucoup ça dans sa famille parce que on dit toujours que la comédie naît de moments un peu dramatiques et il a une enfance assez difficile parce que ses parents ne s'entendait pas vraiment très bien.
Et donc, il en a souffert,
ça se chamaillait énormément. Qu'il avait une mère qui était à la fois très dure et totalement cyclotimique, donc il était totalement perdu. Et dans les personnages qu'il va écrire au fur et à mesure, y compris dans ses comédies, il y aura quand même cet aspect. La famille aura une véritable importance, mais une famille, à chaque fois, totalement barré, des vrais branques.
C'est des maisons de fous.
C'est des maisons de fous. Alors de ça, certains peuvent tirer un traumatisme à vie. Lui, finalement, sa psychanalyse, il se l'est presque faite tout seul à travers ses films et à travers ses films qui rendent hommage étrangement à ses parents.
Oui, et avec un côté farce aussi. Donc c'était pourquoi ? Pour dépasser ce que peut-être lui, enfant, vivait mal. Je ne fais pas de la psychologie de bac à ça, mais il y a un peu de ça.
J'imagine. Ah mais c'est ça, c'est vraiment se servir de ce dont il a vraiment souffert. Il raconte vraiment son enfance, ça a été difficile. Qu'en plus, ses parents rêvaient pour lui d'une carrière ou de médecin ou d'avocat.
Une carrière sérieuse.
Oui, quand ils l'ont vu arriver, proposer de monter sur scène, écrire des gags, je pense que ça a été la liste. Et c'est ouais. Quand il a commencé à gagner un peu d'argent, qu'on a dit, ah, ben, c'est un peu sérieux. Mais il a dit lui-même, je ne sais pas vraiment si mes parents ont ri à ce que je faisais. Je sais
c'est
juste
dur,
que
ça.
Ouais, comme ça marchait, ils se sont dit bon, ça va, notre fils fait quelque chose. Mais que voilà, et je pense que dans cette autodérision qui l'a chevillé au corps, il y a véritablement ce côté, oui, transcender sa jeunesse compliquée, triste, dont il parle d'ailleurs assez peu.
C'est ce que j'allais vous demander. Il se confie sur cette jeunesse, sur ses parents, sur cette inspiration qui paraît assez flagrante pour vous, par exemple, qui êtes spécialiste de cinéma.
Il se confie très peu en général. Il ne faut pas oublier que Woody Allen est quelqu'un qui n'a jamais revu un de ses films. Et donc, quand on interview, c'était assez bizarre parce que...
C'est-à-dire qu'il les a montés, après
il a montés, et après, il ne veut plus les voir. Depuis le premier, certains acteurs ou réalisateurs disent « je ne les vois plus ». Mais lui, c'est vraiment... Donc, lorsqu'on l'interview, arriver à lui arracher la moindre confidence est compliqué. Ceux qui parlent le mieux d'Woody Allen, c'est finalement ses comédiens. Mais lui-même, il dit « ben non, moi, j'aurais rêvé de faire un chef-d'œuvre, j'y suis toujours pas arrivé. Voilà pourquoi je fais un film par an. » Et plus j'en fais, plus je m'en éloigne.
Alors, il aime se fabriquer.
Ouais. Comment a-t-il basculé des scènes de stand-up new-yorkais au cinéma et au premier grand succès, dans un grand succès, c'est ce qu'on vous raconte.
C'est un gag à la Woody Allen, ça.
Elle était bonne, celle-là.
Foyer de mon frère.
Ce soir, on célèbre un anniversaire, celui de Woody Allen qui fête aujourd'hui ses 80 ans. On vous fait découvrir les moments phares, marquants de sa carrière avec le journaliste Thierry Chaise. Thierry, il y a 50 ans, sortait sur les écrans ce film. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. What's new Pussycat, quoi de neuf Pussycat, musique de Tom Jones, scénario Woody Allen, il joue dedans aussi Woody Allen, donc en 65. Alors c'est quoi l'aventure de ce film, racontez-nous.
Elle est absolument incroyable, le film a beaucoup vieilli, hein, mais l'histoire du film n'a pas vieilli d'un pouce. Il est sur scène à New York et à ce moment-là Warren Beatty veut produire un film. Warren Beatty, l'acteur, est un peu dans le creux de la vague. Après La fièvre dans le sang, il a envie de faire un film où il se raconte un peu, lui, un peu une comédie. Donc ça sera l'histoire d'un séducteur, évidemment, car Warren Beatty est très séducteur. Et il le repère avec le producteur Charles Feldman, ils vont le voir, et ils disent à Woody Allen, ah, toi t'es drôle, tu vas nous trouver la bonne histoire. Woody Allen dit, d'accord, je vous trouverai la bonne histoire, mais moi, je ne l'écris que si je joue dans le film. Alors on négocie, voilà, ça passe. Et donc il va s'écrire un rôle. Ouais. Sauf que Warren Beatty voit que son producteur veut absolument caser sa femme Capucine, qui est une Française, dans le film. Warren Beatty, lui, il veut caser sa compagne, Leslie Caron, dans le film. Il y a une bataille entre les deux. Pendant ce temps-là, Woody Allen écrit, mais il écrit pour Warren Beatty. Et Warren Beatty va dire, je m'en vais. Persuadé qu'on le retiendra en disant, et pas du tout.
On
le laisse partir. Il est remplacé par Peter O'Toole, voilà, de Lawrence d'Arabie. Peter Sellers est aussi dans le film. Et donc Woody Allen. Et Woody Allen est là, et Woody Allen va vivre une expérience assez terrible. Parce que il a écrit le film, donc il est très content, évidemment.
C'est une star, non?
Ah, parce que c'est vraiment une star de New York. Et donc, il se dit, c'est la première fois, j'y vais, on me fait confiance. Mais il y a Peter Sellers.
Enfin, c'est une star de la scène de théâtre.
Qui est quand même renommée, du coup, même à Hollywood.
D'accord.
Sauf que Peter Sellers, lui, il sort de Docteur Fellamour, il sort de La Panthère Rose.
Il fait l'humour, lui aussi. Énormément. Bien sûr.
Et il voit, il a vu dans le texte de Woody Allen, qu'en fait, Woody Allen a bien écrit, mais il s'est
gardé les bonnes vannes.
Alors, que fait Peter Sellers? Eh ben, il va improviser. Et pour Woody Allen, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et il sent bien que le film le dépossède. Donc, il va vivre une expérience difficile, même s'il a pour partenaire Romy Schneider et Ursula Andress. Donc,
Justement, avec les femmes, ça ne va pas être très pratique non plus, parce que j'ai entendu dire que Romy Schneider n'était quand même pas très disposée à ce qu'on la marie à l'écran avec Woody Allen.
Mais pas vraiment non plus. C'est ça qui est formidable. C'est qu'en effet, tout le monde voyait ça d'un assez mauvais œil. On ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas vraiment le physique du séducteur. Alors, dans le film, donc, Romy Schneider, qui a des vues sur le personnage que joue Peter O'Toole pour le rendre jaloux, fait croire qu'elle est amoureuse de Woody Allen. En fait, ça fonctionne. Simplement, sur le plateau, c'est vrai que Woody Allen, par rapport au niveau du cinéma, à Peter O'Toole et Peter Sellers, c'est véritablement pas grand chose. Il n'y a plus Warren Beatty non plus. Bref, ce film,
par tournage
que nous, sauf que c'est un triomphe.
Ça marche.
Sauf que ça marche.
Et donc, ça lance la carrière de Woody Allen.
Ça lance la carrière de Woody, sauf qu'il se dit, OK, j'ai bien compris. Il dira, j'ai vécu ce qu'Hollywood peut montrer de plus vénal dans ce film. Donc, à partir de là, il dit, si je veux vraiment faire du cinéma, il faut que j'ai le contrôle de tout. Donc, ça véritablement le déclic. Mais s'il n'y avait pas eu de succès, il n'aurait pas pu avoir le contrôle de tout.
Donc, ce film, Quoi de neuf, Pussycat, va lui ouvrir les portes d'Hollywood. On le voit ensuite dans un James Bond, Casino Royale. C'est en 67. Il interprète le neveu de 007.
Non, il a joué dans un James Bond.
On a oublié.
Parodie, voilà. Parodie. Mais il est là. Drôle. Exactement.
Et en 1969, il tourne ce film, Prends l'oseille et tire-toi.
C'est Holden! Dis donc, qu'est-ce que tu viens faire ici?
Nous attaquons la banque?
Pardon, c'est nous qui attaquons la banque.
Oh non, nous sommes venus les premiers.
C'est nous qui attaquons la banque.
Ne l'écoutez pas, messieurs, dames, c'est un imposteur.
Alors c'est Woody Allen, on entend sa voix française, c'est Guy Pierrot, c'est ça, si je ne me trompe pas, Thierry Chaise, dans une scène de Hold Up. C'est la première réalisation de Woody Allen. Il écrit aussi le scénario?
Alors il fait tout, c'est la première fois qu'il fait tout. Il fait acteur, scénariste, réalisateur, et on verra, il fait aussi monteur.
Personne pour lui faire de la concurrence ce film.
Alors il a hésité au début, il a eu peur, il a demandé à Jerry Lewis de réaliser. Jerry Lewis dit « je peux pas ». Et puis d'un seul coup, il dit j'y vais, et puis j'y vais, et puis il est très à l'aise, parce qu'on peut se dire il est angoissé. Pas du tout, le premier jour de tournage, il est tellement excité qu'il tombe et qu'il se fait très mal au nez. Donc il va jouer avec un pansement pendant tout le film, ce qui n'est pas prévu dans le film, mais il est à l'aise. Alors c'est l'histoire, lui il voulait en faire un vrai faux documentaire en noir et blanc. C'est vraiment l'histoire d'un bandit qui rate tout ce qu'il entreprend à peu près. Et
donc le pansement sur le pif, finalement
tout va très bien, et le tournage se passe plutôt bien. Simplement, après, une fois qu'un film est tourné, il faut arriver à le monter.
Ah.
Et là,
il sait pas faire,
ça va prendre du temps. Il commence à couper ce qui va pas, et puis à force de couper, ça va ressembler à un court métrage.
Ah, il va récupérer des scènes qui finalement sont pas si mauvaises.
Exactement.
Que ça.
Parce que c'est un vrai métier d'être monteur, et donc il va faire appel à un véritable monteur qui a monté les producteurs de Mel Brooks pour faire un véritable film. Et là encore, ça va être un succès et c'est lancé. Mais c'est la première expérience. Et donc la première expérience de Woody Allen ressemble à un film de Woody Allen parfaitement.
Alors il rencontre un grand monteur, c'est ça? C'est oui. Ralph Rosenblum.
Exactement.
Et il va aussi être aidé par Diane Keaton.
Oui.
Pourquoi?
Parce
qu'elle vient faire là,
alors,
cette
Diane Keaton, il l'a rencontrée juste un petit peu avant, parce que Woody Allen continue à écrire des pièces de théâtre. Oui. Et il va écrire Play It Again Sam, et il va faire passer des auditions. Et Diane Keaton est depuis toujours amoureuse de Woody Allen parce qu'elle adore ce qu'il écrit. Elle l'écoutait quand il faisait des, à la radio, des émissions. Et donc, elle se dit, mais jamais j'aurai l'occasion de le rencontrer. Je vais aller le rencontrer. Et une fois que je vais le rencontrer, vous assurez, je vais le coller et j'aurai le rôle, mais je veux passer ma vie avec lui.
Eh bien, c'est justement ce collage réussi entre Diane Keaton et Woody Allen que l'on va raconter dans un instant avec Thierry Chaise. Dans la curiosité, on va voir comment elle a changé aussi la vie de Woody Allen.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah oui, c'est la dégringolade comparée à ce que vous connaissez d'habitude.
Vous serez ravis d'apprendre que j'ai perdu jusqu'à mon dernier sou.
Son mari était un sacré embobineur.
Et d'après ce qu'on me dit, elle est très jolie. Divinatrice et divine à regarder.
Sidonie Bonnec.
Je perçois une impression mentale. Êtes-vous originaire d'Asie, d'Extrême-Orient?
Thomas Hugues.
J'ai toujours été persuadé qu'il n'y avait rien du tout après la tragique et morne réalité de la vie, alors que vous êtes la preuve qu'il y a autre chose. De mystérieux, de magique.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les beaux dialogues, les bons mots, le flow Woody Allenien, on le reconnaît dans cette mise en onde de notre réalisateur Sébastien. Thierry Chaise, nous sommes avec vous pour raconter la vie, la carrière passionnante. Alors on en sélectionne quelques morceaux, évidemment, tellement elle est immense. Il a 80 ans, 46 films au compteur. Et puis on parlait de ces femmes, les femmes de sa vie qui ont évidemment joué dans son œuvre. Il y a Diane Keaton. Pourquoi ils se rencontrent au théâtre?
Oui.
Pourquoi cette femme est importante dans sa carrière?
Parce qu'elle a dit, moi j'étais importante pour une raison, c'est que je riais à toutes ses blagues. Et que du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à le séduire. Elle va être importante parce que jusque-là, son humour, finalement au cinéma, poursuivait ce qu'il faisait sur scène. Que des gags. Avec elle, et sans doute aussi pour la séduire, son humour va être plus sophistiqué. Il va inventer, dans sa période qui sera la plus prolifique, 76 à 80, cette comédie-là, va oser se confronter au drame avec intérieur. Et il y a quelque chose où, voilà, c'est aussi un cinéma de séducteur. Derrière ce côté « je me moque de moi-même », évidemment, il vaut mieux rire de soi-même, parce qu'au moins on fait rire, et on sait que faire rire, c'est séduire. Et avec vraiment le film symbole de ça, c'est Annie Hall.
Alors justement, Diane Keaton et Woody Allen. Dans Annie Hall, c'est tout de suite, mais attendez, c'est Alvy et Annie, dans une file d'attente de cinéma.
Certes, La Strada était un grand film, mais cette simple...
Je vais en faire un infarctus.
Il n'écoute pas.
Je n'écoute pas, mais il me bug son opinion en plein dans l'oreille.
Je veux dire,
qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se débarrasser d'un pignouf de cet acabit dans une queue? Faut-il que vous l'exprimiez si fort? Enfin, mais c'est la honte, cette façon de pontifier sans arrêt. Et ce qui manque pas de sel, c'est que Marshall McLuhan, vous n'avez rien compris au vrai travail de McLuhan.
Vraiment, vraiment.
Voilà, dialogue de cinéphile en novembre dernier.
Et de sourd.
Oui, c'est ça. Et Annie Hall a été élue meilleur scénario comique de tous les temps par le syndicat des scénaristes américains. Qu'est-ce qui explique ce succès, cette légende qui est devenue Annie Hall?
Moi, je pense qu'il y a vraiment... c'est la quintessence de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a de la comédie. On rigole beaucoup. Il y a une capacité à faire de la nostalgie aussi, à travers l'enfance du personnage. Ça va du tac au tac. Et puis, c'est le plus autobiographique de tout ce qu'il a fait. Parce que ça s'inspire à la fois d'Annie Hall. Annie ne s'appelle pas... Il y a un personnage qui s'inspire totalement de qui était Diane Keaton. Elle vient avec ses propres vêtements. Et Woody Allen se moque de ses divorces précédents. Et donc, il y a quelque chose de... Alors lui, il est névrosé. Il adore Kafka et tout ça. Elle l'est délurée. Il s'aime et finalement, ça se finira pas très bien. Il y a vraiment, c'est là où pour la première fois, le drame et la comédie se marient parfaitement. On a l'impression que ça ne fait qu'un et non pas apposé l'un à l'autre. Et c'est vrai que aux Oscars, ça triomphera, que ça sera, ils feront encore quatre autres films derrière. Mais pour moi, c'est vraiment le film qui symbolise leur relation et tout Woody Allen.
Et qui pose aussi le style Woody Allen. C'est quoi son style? Si vous pouvez le résumer en quelques
mots.
C'est
ça. C'est de la mélancomédie.
Ouais.
C'est
une manière de filmer particulière aussi, plans séquences,
pas trop de gros plans, parce qu'on laisse la place au dialogue. C'est vrai que les plans séquences permettent aux acteurs bien de jouer les scènes dans leur continuité, alors qu'habituellement on découpe beaucoup. Donc un acteur joue un mot, hop, on coupe et on fait le contre-champ. Et donc il y a véritablement, c'est la place laissée aux mots, à l'autodérision. Une fois encore, c'est facile à dire de mélanger les moments d'émotion et de rire. C'est tellement compliqué à faire. Il y a tellement qui essayent à faire du Woody Allen et qui n'y arrivent pas parce que c'est une marque déposée. Et je trouve que lui, il a ça en lui. Cette tristesse dont on parlait tout à l'heure depuis l'enfance, finalement. Et cet art de rire ressort là. Enfin, ressort là à la fin des années 70.
Thierry Chaise, Woody Allen, Diane Keaton, c'est un couple. Est-ce que c'est encore un couple quand ce film est tourné?
Ce n'est plus un couple depuis 2 ans. Car Diane Keaton est partie avec Warren Beatty.
Celui qui était déjà parti.
Celui qui était déjà parti, qui était à l'époque avec Leslie Caron et qui continue et qui poursuivait son œuvre de grand séducteur. Non, ils ne sont plus ensemble. Mais ça restera pour le coup, ça reste des amis à vie. Et lorsque plus tard, il aura les problèmes dont on parlera avec la justice, elle sera toujours présente. Et lorsqu'aujourd'hui, encore, il est attaqué, elle est présente. Il a dit, ça a été l'une des femmes de ma vie, voire la femme de ma vie, m'amuse et cela reste ma meilleure amie. Et ce film raconte ça.
Quelques années plus tard, elle s'est réconciliée dans les bras de Mia Farrow. Ils se rencontrent comment?
Alors Mia Farrow, elle vient le voir sur un de ses tournages, Stardust Memories. La légende veut que c'est Michael Caine, le comédien qu'on a vu encore cette année dans Youth de Paolo Sorrentino, qui les a rencontrés exactement. Et ils vont travailler, ils vont faire un premier film 2 ans plus tard. Et là encore, ça va commencer comme dans un film de Woody Allen, ça s'appelle Comédie érotique d'une nuit d'été. Ça se passe mal. Ils vivent dans une espèce de bungalow. Elle tombe malade. Il lui parle pas parce que sur un tournage, il est difficile. Elle perd confiance. C'est quand même l'homme qu'elle aime, mais qui ne la regarde pas. Elle a un ulcère au bout de la moitié du tournage. Ils s'insultent. Ils vont continuer à travailler ensemble, mais la période Mia Farrow sera moins apaisée que la période d'Anne Keaton.
Et puis elle se termine très mal avec des accusations lourdes, la révélation d'une liaison entre Woody Allen et Sunny Previn. Sunny Previn, c'était un de leurs enfants adoptés, c'est ça ?
Exactement.
Très jeune.
Exactement. Alors il faut savoir que Woody Allen et Mia Farrow ont vécu une dizaine d'années ensemble et n'ont jamais habité ensemble. Et donc un jour, elle rend visite à l'appartement de Woody Allen. Woody Allen n'est pas là et elle découvre dans cet appartement des photos érotiques de Sunny, qui est alors âgée de 19 ans. Mmh. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle est quand même en train de tourner Mari et femme, qui raconte des histoires de deux couples qui divorcent, sous la direction Woody Allen. Il reste encore 4 ou 5 jours à tourner, et le producteur va arriver à la convaincre de venir terminer le film, puisque pour elle, c'est
insupportable.
Ouais. Et à partir de là, les États-Unis ne verront plus jamais Woody Allen comme avant. Ça reste pour beaucoup un pédophile, au-delà du fait que c'est plus que l'inceste, finalement, c'est le jeune âge de Sunny.
Parce que cette liaison, elle avait commencé avant les 19 ans de Sunny.
Exactement. Donc ça, c'est après, chaque avis diverge. Lui, on va l'accuser aussi, encore récemment, d'avoir abusé d'une autre fille de Mia Farrow. Là, pour le coup, le procès a eu lieu, il a été débouté. Mais de nouveau, quand on dit...
ça entache son image.
Voilà, ça entache son image, il en reste toujours quelque chose. Mmh. Et surtout, là, autant le divorce donc avec Diane Keaton, séparation s'est bien passée. Là, évidemment, c'est une bataille d'avocats. Les enfants sont aussi là-dedans. C'est quelque chose qui n'est pas terminé encore. La plaie est toujours ouverte entre les deux.
Et puis, dans un instant, on va raconter pourquoi Woody Allen plaît tant en Europe et pas vraiment aux États-Unis, en dehors de ces histoires, de ces faits divers, évidemment.
Merci, Denis Bonnec. Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir, dans la curiosité, à l'occasion de son anniversaire, on vous raconte l'histoire de Woody Allen, cinéaste très apprécié en Europe, mais qui vend un peu moins ses films aux États-Unis. C'est ce que l'on va vous expliquer maintenant avec le journaliste Thierry Chaise. Ça marche moins aux États-Unis depuis longtemps, Woody Allen?
Oui, ça marche moins. Alors, dans les années 70-80, les deux succès qu'il y a eu, c'est Anna et ses sœurs en 86 et Manhattan. En gros, pour des gros succès américains, on dit c'est la barre des 100 millions de dollars. Mmh. C'est bien. Lui, il a jamais dépassé la barre des 40 millions avant ce moment-là. Parce qu'il est vécu, il est vu en tous les cas comme un cinéaste new-yorkais, un télo.
Un peu élitiste,
un peu européen, on va dire. Mmh. Et donc ça marche dans les villes comme San Francisco, Los Angeles et New York. Et pas vraiment ailleurs. Et c'est vrai que jusque les années 80, ça marchait quand même à peu près, parce que c'est films qui coûtent pas très cher. Et dans les années 90 et 2000, ça a commencé à chuter beaucoup. Et je pense que c'est posé à un moment le problème réel du financement. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui, contrairement à la plupart des autres Américains, a le final cut. C'est-à-dire que c'est lui qui décide du montage final de son film.
En France, dans la logique de ce que vous expliquiez tout à l'heure pour son premier film, d'une certaine façon.
En France, ça nous paraît normal. Ouais. Mais aux États-Unis...
Mais ça s'arroge, ce droit-là, aux États-Unis.
Lui, il l'a eu depuis le début. Et c'est ce que...
C'est comme ça.
Il y avait une discussion avec
Woody
Scorsese.
Allen, on le coupe pas, quoi.
Exactement. Voilà. Et du coup, il fait des films à plus petit budget. Mais c'est vrai que là, normalement, Hollywood, c'est le producteur qui a le dernier mot.
Mais même pour Spielberg, Lucas et les plus grands.
Ça explique pourquoi Spielberg, Lucas et les plus grands sont devenus producteurs.
D'accord, ça y est.
Et du coup, ils l'ont.
Comprendo.
Et voilà. Et non, mais c'est vrai. Et Scorsese, lui-même, parfois, a eu ses films et disait à Woody Allen, mais comment t'as fait? Il dit, j'ai dû trouver les bonnes personnes. Moi, personne n'a jamais lu mon scénario avant que je tourne, n'a jamais été dans ma table de montage, et je n'ai jamais fait de projection test pour me dire de changer quelque chose.
D'accord, mais du coup, il a un peu plus de mal à trouver de l'argent.
Et voilà.
Et c'est pour ça qu'il tourne beaucoup à l'étranger, en Europe notamment. Pourquoi Thierry Chesse? Parce qu'en fait, on lui finance, les villes lui financent une partie de ses films.
Ben voilà, il l'explique lui-même. Il vient au milieu des années 2000, c'est Matchpoint d'abord. Il est allé donc à Londres, il est allé à Paris, il est allé à Rome, à Barcelone. Et les villes aident, parce qu'il y a des aides en effet au financement de tournage. Lorsqu'il fait Vicky Cristina Barcelona avec Penelope Cruz et Scarlett Johansson, il l'explique lui-même. Au départ, ça devait s'appeler presque Vicky Cristina Roma. Ça devait se faire en Italie. Et puis Barcelone avait donné plus d'argent. Donc il reviendra à Rome une autre fois. Et voilà. Et en même temps, c'est l'artisanat. C'est-à-dire que ça reste du coup de l'artisanat. Et c'est des villes quand même qu'il aime. C'est-à-dire qu'il ne va pas filmer n'importe où. Rome, Paris ou Barcelone, c'est des villes qu'il connaît et qu'il aime.
Et vous le disiez, Matchpoint, c'est certainement le film qui l'a relancé.
Je peux ?
Bien sûr.
Il faut vous appuyer et puis suivre la balle.
Je me débrouillais très bien jusqu'à ce que vous arriviez.
C'est l'histoire de ma vie. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'une belle joueuse américaine de ping-pong vient faire au milieu de membres de la noblesse anglaise ?
Quelqu'un vous a déjà dit que vous avez un jeu très agressif.
Et quelqu'un vous a déjà dit que vous avez des lèvres très lascives.
C'est un thriller hypnotique, c'est ça, avec Scarlett Johansson. Exactement. Et Jonathan Rhys-Meyer.
Oui. Ça enfin,
là, c'est Scarlett. Les voix françaises.
Oui, mais...
C'est un de ses films préférés, Matchpoint, à Woody Allen.
Oui, ça. Alors, il n'aime rien de ce qu'il a fait. Donc, voilà, pour être à peu près clair, comme il ne revoit pas, comme
il ne
revoit
pas,
il n'aime rien. Par contre, ce qu'il aime beaucoup, c'est Scarlett Johansson. Et c'est vrai qu'elle est devenue voilà, sa muse pour trois films. Alors là, il l'a un peu délaissée pour Emma Stone dans les films récents. Mm-hmm. Mais on sent que son cinéma a changé, mais qu'il y a l'idée quand même, comme il y a eu à Diane Keaton, comme avec Mia Farrow, mais de manière plus volage, puisque maintenant il est marié depuis longtemps avec Sony, de que la femme est quand même le moteur, l'avenir de l'homme et le moteur de Woody Allen, c'est les deux. Et donc il y a cette fascination pour Scarlett Johansson, qui d'ailleurs n'a jamais été aussi bien, je trouve, que dans les films de Woody Allen aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste, oui, c'est donnant-donnant.
C'est gagnant-gagnant.
Et gagnant-gagnant.
On peut dire ça comme ça. C'est à Paris finalement que son film le plus rentable a été tourné.
Exactement.
C'est quoi, c'est Minuit
à Paris, ouais. 56 millions de dollars recettes aux États-Unis, son record de toute sa carrière, devant Manhattan, devant Annie Hall. Ouais. En France, ça a fait quand même 1 730 000 entrées. Oui, c'est là. Mais on se dit quand même, Woody Allen, c'est un amoureux de la France. C'est-à-dire que dans tous ses films, il cite quasiment le cinéma français et européen. Il fallait qu'à un moment, il se retrouve à Paris. Et le mélange s'est fait. Alors, aux yeux des Américains, là, je pense que beaucoup d'Américains préfèrent voir Woody Allen parler de Paris que de New York, en fait. Voilà. C'est exotique.
Et, oui.
et en plus, c'était le Paris... d'hier, donc encore plus exotique.
Et puis dans ce film, Minuit à Paris, on retrouve notre star internationale, Marion Cotillard, presque éclipsée par la présence de la première dame, l'ex-première dame, Carla Bruni-Sarkozy. On en écoute un extrait.
Et une grande partie de l'œuvre de Rodin a été influencée par sa femme, Camille.
C'est Rose qui était sa femme.
Non, il n'a jamais épousé Rose.
J'espère que tu vas être moins asociale demain.
Je dois avouer que moi, je suis bien moins séduit par lui que tu l'es. Mais c'est qu'un petit intello.
Il est un peu plus tannique que le 59. Je préfère une notion un peu fumée. Carole et moi, on va aller danser.
Oh.
On nous a parlé d'un super endroit. Intéressé?
Non, je ne veux pas jouer le rabat-joie, mais j'ai besoin de prendre un peu l'air.
Minuit à Paris avec donc Carla Bruni-Sarkozy. C'est Woody Allen qui va la chercher, c'est elle qui insiste pour jouer dedans. Comment ça se passe?
Alors, moi, avec le package parisien aussi peut-être.
Je vais me fier à ce que dit Woody Allen. Il a raconté qu'il a eu un déjeuner avec le couple Sarkozy. C'est vraiment une rencontre de couple, un petit déjeuner. Et là, il l'a vu, il l'a rencontré, il lui a dit voilà, je vous trouve très belle et j'aimerais vous. Est-ce que vous seriez prête à apparaître dans un tout petit rôle, une femme qui va dans un musée? Et elle dit oui. Parce que j'aimerais montrer plus tard le film à mes enfants et mes petits-enfants. Voilà. Et il se trouve qu'ensuite, le film a été projeté à Cannes, ouverture du festival, qu'à ce moment-là, Marion Cotillard, en plus, était enceinte, n'a pas pu venir. Donc, que la star française du film s'est retrouvée être Carla Bruni. Mmh. On était en 2011, Nicolas Sarkozy était encore président. Voilà. On a beaucoup parlé, du coup, de sa présence.
Toute petite dernière question très rapide, Thierry Chesse, il est comment avec ses acteurs? Sympa?
Thierry, il parle pas.
D'accord.
Donc, il faut le savoir. Emma Stone, pour le premier film qu'elle a fait avec lui, elle est rentrée dans la pièce. Elle fait le casting, elle pose son manteau, elle dit bonjour, il lui dit super, merci, au revoir. Et, trois semaines après, il l'a rappelé pour dire que c'était elle.
Bon, bah, il est efficace.
Voilà, efficace, mais n'attendez pas de direction de la part de Woody Allen.
Merci beaucoup à vous, Thierry Chasse. C'était un bonheur de vous avoir au micro d'RTL et de la curiosité, comme toujours. Et puis, on cite un très beau livre, Woody Allen, qui nous a aidé à préparer cette interview. C'est aux Tom Sean, et c'est aux éditions Thomas
Grunt.
Vous écoutez RTL.